Salut les marques et les smarts, bienvenue dans le catch-up. Je suis Rickside et comme toutes les semaines, ici au podcast qui transpire le catch, on va vous analyser, vous résumer mon Day Night Raw. Pour m'accompagner, l'incroyable Hank. Comment vas-tu, Hank?
Ça va, ça va. N'hésitez pas dans le chat à me dire si vous entendez bien, si vous m'entendez bien et si vous entendez bien Ringside, parce que moi de mon côté, ça bug vaguement. Mais sinon, ça va très bien pour ce Go Home Show de, je l'ai renommé donc du coup dans en titre de ce podcast, Extreme Lose.
Extreme Lose, ok. Voilà, Boston, le 9 juillet, effectivement, c'est le Go Home Show pour Extreme Rules. Donc on va se hyper comme des oufs. C'est le choc des titans, hein, pour commencer. Parce que qui c'est qui se trimballe dans les vestiaires, c'est Roman Reigns. Et il croise sur sa route Bobby Lashley. Bobby Lashley qui lui tient pas intérêt à m'interpeller, à me dire de venir sur le ring. Hein. J'attends que ça, tu vas voir ta gueule. Roman Reigns, je fais ce que je veux. Allez hop, il va au ring. Au ring, évidemment, il appelle Bobby Lashley. Bobby Lashley débarque. La tension monte. Kurt Angle arrive. Il dit attendez, les gars, gardez ça pour dimanche. Mais non, ils n'attendent pas. Ils se foutent sur la gueule comme des sauvages. Là, Kurt Angle fait débarquer tout le roster pour les séparer. Y a une petite domination de Lashley jusqu'à ce que Roman Reigns fasse un joli dive par-dessus la troisième corde. Ils vont en remettre une couche après. On arrive grosso modo à les séparer bon an mal an. Donc c'est une longue séquence hein, où il y a tout le roster qui essaye de les séparer. Hein, vous voyez le genre.
Ouais.
Et après, un peu plus tard dans l'émission, pour ce qui concerne Lashley et Reigns, on aura deux petites interviews. D'un côté, Roman Reigns qui est toujours motivé pour gagner dimanche. Et c'est la même chose du côté de Lashley. Voilà, il y a quelques phrases, mais rien de vraiment intéressant dans ce qui se raconte. Mais en tout cas, voilà, la rivalité est lancée. On en est venu au point entre Roman Reigns et Lashley. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça?
C'est ironique parce que je pense que tu n'en as pas. Est-ce que tu en as fait exprès? Je ne sais pas. Mais tu as fini par la rivalité est lancée.
Ouais.
On en est à genre une semaine avant le pay-per-view. La rivalité, elle en fait. Ça y est.
Ça y est, maintenant, ils s'aiment pas.
Ça a mis son temps.
Ah oui, ils disent beaucoup qu'ils se respectent pas l'un l'autre. Hein.
Ah oui, alors ça, c'est.
Voilà, c'est ça. C'est le leitmotiv des discussions.
Comme disent les jeunes, il y a un manque de respect. Non, mais bon, j'ai beau être cynique, moi, avec mon extreme lose. J'ai trouvé que, en fait, c'est le segment que je demandais la semaine dernière. Je disais, pourquoi ils se foutent pas juste sur la gueule? On n'en a rien à faire des discours et tout ça, quoi. Et j'ai trouvé que c'était très bien fait. J'ai trouvé que le segment était vraiment bien fait. On a réveillé Roman Reigns, qui avait un peu le regard du tigre. Enfin, il avait pas l'air d'un poisson mort. Bobby Lashley aussi paraissait. Alors, il a toujours une tête un peu robotique, mais quand même, quand il lui fonce dessus là, le long des barricades et qu'il lui font un coup sur le nez comme ça, j'ai pas eu le temps de voir à quel point c'était du faux, mais ça, sur le moment, ça paraissait quand même bien violent. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment bien joué. Contrairement à ce qu'ils font souvent dans ce genre de segment, c'était pas trop long. Il y a eu juste une relance, mais pas trop longue. Donc ouais, non, j'ai trouvé que c'était bien fait. Il y a un passage qui est assez drôle, et je sais pas si c'était prévu, où Balor a attaqué Baron Corbin aussi, gratuitement.
Ouais,
au milieu du ring. Pourquoi pas? Et puis
Baron, on en fera plus mention dans l'épisode. Hein.
Baron, ouais, Baron n'a pas du tout répondu. Mais bref. C'est ce qu'il fallait. Voilà, on n'avait pas besoin d'une nouvelle, un nouveau face-à-face disant ah bah c'est toi l'égocentrique, c'est moi l'égocentrique, c'est nous les égocentriques.
Mais il vaut mieux qu'ils parlent pas trop en fait. Hein.
Voilà.
Ça fonctionne mieux quand ils se frappent sur la gueule. Bah, on est un peu sur sur une forme de rivalité, enfin une forme de présentation de rivalité qui est proche de ce qu'ils font à l'UFC en fait. Les deux viennent se rencontrer dans le ring, ça se pousse, on se bat, se fout sur la gueule avant que le match démarre. Enfin, quelques jours avant que le match ait lieu. C'est un peu le genre de truc qu'on a l'habitude de voir avec, Brock Lesnar. Visiblement, voilà, on est en fait dans une rivalité qui est un peu, on va dire, un décalque de ce qui se fait à l'UFC. Ça crédibilise un peu les deux.
Puis vu qu'on va pas avoir Brock Lesnar avant 300 ans maintenant, vu que...
Ouais. Je me demande s'ils ont pas, ouais, si c'était le projet de départ ou pas, qu'est-ce qui s'est passé, mais en tout cas, voilà, une semaine, s'est repositionné en tant que...
Quelque chose me dit qu'il est en train de le remettre dans l'os, un peu là.
Ce bon vieux Lesnar ?
Oui.
Je crois que
ça va un peu trop loin là. C'est-à-dire, ouais. Bon, pour les gens qui savent pas, à la fin du dernier UFC. Le dernier pay-per-view UFC, en fait, Brock Lesnar a donc du coup défié Daniel Cormier, si je me gourre pas.
C'est ça.
Sachant que Lesnar doit toujours purger ses mois de suspension, passer donc du coup les tests de l'USADA, c'est le test et les tests anti-dopage, etc., les tests de conditions et tout. Enfin bref, donc là, Lesnar, il va pas se préparer à un match de la WWE ces prochains temps. C'est très peu probable
C'est compatible, le match il aura pas lieu à l'UFC avant au moins minimum novembre, voire début d'année prochaine. Donc
ouais,
je pense quand même qu'il a dû s'engager pour des matchs dans son contrat WWE.
Ouais, c'est probable, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est, quand même dans une nouvelle fois dans une configuration où on a l'impression qu'elle vaut plus rien, la ceinture, quoi.
Bah ouais. Bah le problème, c'est qu'on ne sait pas sur quel type de contrat il a signé Brock Lesnar. Il y a des rumeurs qui disent que c'est au match, en fait, qu'il a signé son contrat. Donc ça veut dire pas d'apparition à Monday Night Raw. Il va peut-être réapparaître que pour son match à SummerSlam. Peut-être perdre la ceinture, mais tout ça, c'est un peu casse-gueule, parce que si on sait qu'il part à l'UFC, il y a de fortes chances qu'il perd sa ceinture, mais ça fait plusieurs fois qu'on dit qu'il part à l'UFC et qu'il doit perdre sa ceinture, puis finalement il la perd pas. Ça brouille les cartes, ça donne du suspense, mais c'est sûr que du coup on a toujours une ceinture universelle qui est absente et un champion.
Est-ce qu'on en a quelque chose à foutre du suspense maintenant avec cette ceinture qui n'existe plus ?
Bonne question. Effectivement.
Elle n'existe plus, cette ceinture, vraiment. C'est... Bref.
Ouais. Voilà, bon. Je pense que ce sera le main event d'Extreme Rules, hein, cet affrontement entre Lashley et Roman Reigns. Ouais. Tu vois qui gagner, toi ?
Je me demandais, en fait, tout à l'heure, j'étais en train de parler au chat parce qu'on a fait un petit pré-show pour les gens qui regardent en replay. Voilà, c'est un des avantages. Si vous nous regardez en live, de temps en temps, on va faire un petit pré-show. Et justement, en parlant de pré-show, je me demandais, est-ce qu'on fait un pré-show dimanche ou alors est-ce qu'on fait nos pronos maintenant ? C'est la question. Faisons nos pronos maintenant, c'est pas grave.
Faisons nos pronos.
Allez.
Tu les avais annoncés, hein, c'est pour ça que je te demande.
Reigns. Oui, je sais, je l'avais annoncé, mais en fait, j'étais en train de... J'ai pas pensé assez loin dans les jours qui viennent pour... mais Reigns, ouais, non, je vois pas... Je vois... Bien sûr que la raison voudrait que vous... Enfin, pas la raison, mais ce que je veux dire, si vous vouliez faire une histoire de qualité, vous feriez perdre Reigns. Vous lui feriez une perte de... Justement, il est au sommet de son personnage égocentrique. Et c'est le moment parfait pour faire perdre Reigns. Pour qu'il ait une... voilà, pour qu'il réalise que... Il a manqué de concentration, il a été obsédé par Lesnar et ça l'a mené entre guillemets à sa perte et voilà, et qu'il aille peut-être se concentrer sur une autre ceinture, peut-être repartir vers l'intercontinental ou je sais pas quoi, mais
non, ce ne sera pas ça.
Non, mais bref. Non, mais tout ça pour dire que l'histoire intéressante à raconter, ce serait plutôt que Roman Reigns, s'il perd contre Lashley, ça montre qu'il a vraiment perdu les pédales, quoi.
C'est pas ça. Là, je pense qu'il fait des défenses de titre. Il va faire des défenses de titre victorieuses alors qu'il a pas de titre, quoi.
Voilà.
Ça va être son nouveau challenger, c'est Bobby Lashley. Ils l'ont suffisamment buildé pour qu'il soit un minimum crédible, mais je pense que c'est Roman Reigns, effectivement, comme toi, qui va gagner.
Oui, voilà, et c'est l'histoire qu'ils vont raconter, ça. Ça, c'est la vraie...
Je pense qu'ils sont toujours sur Roman Reigns, ils veulent toujours de...
Une vraie histoire.
de ce Roman Reigns en top
J'ai
guy.
lu
Hein.
de la part de je ne sais quel insider WWE que en ce moment ils considèrent qu'ils veulent faire de Reigns un heel cool. Voilà.
Ouais, faut regarder l'interview du Miz là, si vous voulez voir un peu la manière de penser de la WWE par rapport à Roman Reigns et toutes les histoires. C'est toujours le même principe, c'est-à-dire que Roman Reigns, c'est le mec qui suscite le plus de réactions. Il est aimé par les enfants, les femmes. Donc pour eux, ça reste une réussite.
Et comme dit
Je sais pas
l'adage,
combien il.
les femmes et les enfants d'abord.
C'est ça, exactement. Tout à fait.
Désolé,
C'est
je t'ai coupé pour dire une
WWE
connerie.
en. C'est WWE en plein naufrage. Allez, avançons. On va chez les filles, parce qu'Alexa Bliss et Mickie James regardent la télé, elles aussi. Elles
De
regardent Monday
travers.
Night Raw, et donc elles sont témoins, hein, de ces exactions-là qui se passent en début de show. Donc, elles sont un peu choquées, mais Alexa Bliss reprend Mickie James, hein, elle lui dit « Tout ça, c'est rien, comparé à ce qu'on va faire subir à Nia Jax et Natalya, puisque ce soir, on a un match Alexa Bliss et Mickie James contre Natalya et Nia Jax. » C'est le match qui suit. Donc, grosse démonstration de force de Nia Jax qui gagne le match grâce à une grosse descente de la cuisse sur Mickie James. Mais Alexa Bliss arrive tout de suite avec un kendo stick et elle s'acharne sur Nia, hein, puisque ce week-end à Extreme Rules, ce dimanche, c'est un match Extreme Rules pour le titre féminin qui sera en jeu entre Alexa Bliss et Nia Jax. Donc on s'échauffe ce soir. Mais Nia Jax, elle arrive à encaisser les coups de Kendo Stick. Elle détruit le bâton. Elle fait peur à Alexa qui se sauve. Et puis je crois que c'est tout, hein, pour cette rivalité-là.
Ouais. Et puis après, il y a une espèce de promo un peu toute pourrie de Alexa Bliss avec un smartphone.
Ouais, et il y a Nia Jax aussi qui dit qu'elle va... son
ouais,
truc.
Écoute, mais c'est dingue comme ça doit faire mal un kendo stick parce que Naya, waouh, crier comme si elle allait mourir. Puis juste après, elle fait ah bah non, en fait c'était de l'osier.
Voilà. C'est pas si douloureux.
Ouais. On a envie que ça se passe. Voilà, on a envie de. On a envie de revoir Ronda, qui d'ailleurs a été, j'ai lu, déprogrammée du Raw post-Extreme Rules. J'ai lu ça cette semaine, ce qui est bizarre. Peut-être qu'elle a besoin d'une semaine pour faire je ne sais pas quoi, mais apparemment on ne la verrait pas dans le Raw juste après. Bon, peut-être encore un truc pour brouiller les pistes, je ne sais pas.
Ouais.
Parce que moi, ce que je verrais bien... bon, après, c'est un peu pour la blague aussi, c'est que Naya bat Naya bat Alexa Bliss à Extreme Rules et Ronda arrive, elle fait
la pointe du doigt,
elle lui dit la pointe du doigt.
Je vais ta ceinture.
Il y a une pub. Elle fait comme ça.
Façon New Japan, quoi.
Désolé pour les gens qui sont en audio d'ailleurs, qui n'ont pas vu que je pointais du doigt et que c'est le signe de la ceinture. Tu disais quoi?
Je dis, il y a une pub pour le WWE 2K18 avec 2K19, pardon, qui met en valeur Ronda aussi, hein, parce qu'elle c'est le personnage jouable si vous faites la précommande. Il y a un joli petit clip où on entend le discours de Roddy Piper derrière. C'est plutôt pas mal foutu. Maintenant, c'est sûr que pour ce qui est de l'Extreme Rules, on est moyennement hypé par cet affrontement entre Alexa Bliss et Nia. Je pense que je parie plutôt sur une victoire d'Alexa Bliss, hein, vu que tous les coups sont permis. Et puis, intervention de Ronda, hein, qui va franchir la rampe, la barrière de sécurité, vu qu'elle sera normalement dans le public. Hein, elle va acheter sa place pour venir regarder le match. Elle sera sûrement au premier rang, et puis elle va sûrement venir en fin de match sauver Nia Jax, je pense. Oui, alors Galuf, il nous rappelle que effectivement, on avait une rivalité ignoble à base de kendo stick entre Bayley et Alexa Bliss l'année dernière. Espérons que ça ne se reproduise pas.
Mais si elle vient sauver Nia Jax à la fin, du coup, c'est pas Nia qui gagne.
Ah bah une fois que le match est terminé.
Ah d'accord.
Tu vois, genre Alexa Bliss s'acharne sur sur Nia Jax, hein, y a Mickie James qui est là aussi et puis Ronda vient la sauver.
D'accord. Bah écoute, oui, non, c'est fort probable. Oui, de toute façon, je suis bête parce que la vengeance, Ronda doit se venger d'Alexa, donc du coup, oui, clairement, c'est obligatoirement Alexa qui gagne. Bien sûr, on est en train de dire ça, et puis...
Oui, il y a Jax qui va gagner.
Comme d'habitude, la WWE va faire n'importe quoi. Mais bon, allez, non, ouais, non, je vais mettre Alexa Bliss parce que ouais, c'est selon toute logique, ça va partir dans ce sens-là. Et puis voilà, si vous voulez remettre, je sais pas, Naya dans la rivalité, bah, je sais pas, elle va tourner heel une nouvelle fois. Pas.
Faut que ça tourne au niveau de Nia Jax.
Faut que ça
Ça te
tourne,
tourne.
faut que
Faut
ça
que ça
tourne.
te tourne. Allez, on va dans le bureau de Kurt Angle. Kevin Owens arrive. Il a décidé de squatter le bureau hein, de Kurt Angle, puisque c'est l'endroit le plus sûr. Il a un mot du médecin, il peut pas catcher ce soir, il n'est pas apte. Donc il va squatter un petit peu le bureau de Kurt Angle. Et on enchaîne sur un affrontement tant attendu. Ça fait 3 semaines, voire 1 mois qu'on nous fait languir de ce match, cet affrontement. Ce rematch, cette revanche de Noé José face à Mojo Rawley.
Eh oui.
Victoire de Mojo, après une nette domination sur un violent Alabama Slam. Mojo qui domine largement hein, le match, comme je viens de vous le dire.
Ouais.
Moi, j'étais plutôt agréablement surpris de la performance. Je ne sais pas ce que tu en as pensé.
Ouais, bah après le pauvre, enfin j'ai presque un peu de peine pour Noé Rosé parce qu'il a quasiment rien eu, hein. On lui a rien
Non, il n'a
donné.
rien donné dans le match, hein. Il a fait que subir.
Là, il était vraiment au niveau jobber. Ouais, non, Mojo. En fait, je pense que Mojo, il devrait rejoindre une espèce d'équipe. Alors, je sais pas qui.
Ouais, un clan ou un
Ouais,
truc
il
comme
devrait
ça.
rejoindre un clan. Seul, ça marchera pas, je pense. Mais dans un clan, je pense qu'il pourrait bien forger son personnage. Donc, je sais pas. McIntyre, Ziggler, peut-être? Pour
Il y a
faire.
déjà, ouais,
Ouais.
Drew fait déjà l'office d'enforcer, alors c'est
Ouais, non, c'est
faudrait un autre
compliqué.
truc, mais
Peut-être.
ouais, non, mais il a montré des belles choses, là, je trouve, sur ce match-là. Je suis un peu optimiste du coup sur le cas Mojo.
Ouais, je sais pas, ou peut-être avec Owens. Ou peut-être.
Ouais, Owens il serait bien en leader de clan. Hein, ça c'est. Il y a une petite interaction en fin d'émission là avec Ziggler et Drew. On voit qu'il peut s'intégrer un peu à n'importe quoi aussi, Kevin Owens. Mais ouais, par exemple avec Mojo en bras droit, ce serait pas mal.
Galuf qui nous dit AOP peut-être pour leur donner de la voix.
Pas
Je sais
mal. Ouais, ça serait
pas.
une sacrée équipe de
Ouais.
gros bourrins. Hein.
Après visuellement je les vois pas trop. Enfin Mojo même s'il est heel, il a quand même un côté très. Je sais pas quoi, énergique, athlétique, ça va pas trop avec l'image de Authors of Pain qui sont vraiment des grosses masses. Enfin, je sais pas. Mais bon. Après, peu importe. Quelle que soit l'équipe, intégrez-le à. Voilà. Au moins en duo, si ce n'est en trio, dans un groupe avec quelqu'un qui s'y connaît, voilà, un vétéran et qui. Voilà, qui prenne un peu de l'ampleur. Je pense que vraiment, il a montré ces derniers temps qu'il a du potentiel au micro et dans le ring, ça s'améliore. Donc, voilà.
Ouais, belle marge de progression hein, pour Mojo. Bayley et Sasha Banks sont toujours en thérapie, puis avec le docteur Shelby, avec
Ah
un
oui.
nouveau docteur. Donc il y aura 2-3 séquences comme ça, mais on n'entendra même pas ce qui se raconte. Hormis que Bayley considère que Sacha lui a toujours trahi.
Et on est à
Et on
une
n'aura
semaine du
rien de plus,
pay-per-view.
hein.
Et on est à une
Oui.
semaine du pay-per-view. Donc si,
Il n'y a pas de match
franchement, ouais.
annoncé.
Bah non. Et
Non,
s'ils
donc
en.
du coup on l'aura même pas le match.
Non, bah non, s'ils en annoncent un, ça n'aurait aucun sens. Et puis, enfin, c'est encore plus que d'habitude. J'arrête pas de la répéter cette phrase, ça n'aurait aucun sens. Mais là, ça viendrait vraiment de nulle part. Ou alors des réseaux sociaux. juste pour répondre.
Téléphone sonne, je suis désolé.
Le téléphone sonne. Guillaume nous dit, juste pour revenir sur Mojo, genre une équipe avec Zack Ryder. Le problème, c'est que Zack Ryder.
Par exemple.
le problème, c'est que Zack Ryder, c'est un babyface à mort. Il ne deviendra jamais un. Enfin, je veux dire, quand. Je me souviens même pas de la dernière fois où Zack Ryder a été heel.
Il est pas NXT, Zack Ryder.
Et nulle part, je crois
qu'il
est
monte dans le roster principal d'abord.
Il doit peut-être catcher un main event de temps en temps. Mm. Mais non, puis alors, je sais pas si vous avez déjà vu le. Je crois qu'il y a un ride along entre Ryder et Mojo. Enfin bref, je me souviens d'une émission sur le network. Ryder, il supporte pas en fait Mojo. Il est insupportable Mojo dans la réalité. Il est speed, il est comme dans, ouais. Il est comme son personnage en vrai en fait. Il est super speed et il est pas très très malin. Donc du coup il raconte beaucoup de conneries etc. Je pense pas que Ryder était très content en fait d'être en tag team avec lui. Même si
non, son Ryder, je pense qu'il était pas du tout content d'être revenu à NXT, d'être ouais. en tag team. Voilà, c'est pas. C'était lui le perdant dans l'histoire.
Donc voilà.
Ouais, puis effectivement, Mojo, c'est peut-être un peu un espèce de Enzo Amore au plus costaud, quoi.
Mais Bailey, Sacha, donc du coup, voilà, rien de rien.
Rien de rien. Voilà, nous n'aurons rien du tout.
C'est un peu comme s'ils avaient abandonné. En fait, c'est un peu comme s'ils avaient filmé tout ça. Et ils ont fait ah non c'est de la merde etc. Mais comment on va faire parce qu'il faut quand même il faut quand même les montrer quoi parce qu'on a promis de nous montrer des séances etc. Donc du coup on va montrer des séances mais on va avoir les commentateurs dessus qui font et voilà la séance de je sais plus conciliation je sais pas quoi médiation
ouais, la thérapie continue blablabla
et on sait rien du tout et c'est juste rien n'avance, rien n'est dit. On a eu une séquence où le micro était enclenché et c'était Bailey qui était encore en train de se plaindre et disait exactement la même chose que la semaine dernière sur Sasha Banks. Donc ça sent vraiment le truc totalement avorté. C'est quand même c'est terrible. C'est
ouais, en parlant de truc avorté, tu te souviens que Natalia elle avait le genou blessé à un moment donné. Il n'y a jamais eu de suite de ça non plus. En parlant de trucs avortés, Jinder Mahal est dans les vestiaires et il se fait plus ou moins couillonner par Seth Rollins. Là, il lui fait une démonstration d'ouverture de chakra et Rollins se barre pendant la démonstration. Rien que de très normal.
La première bonne blague de Rollins de la soirée.
Festival de jokes. D'ailleurs, c'est ça. Hein. Ensuite, on a Seth Rollins qui est au milieu du ring. Hein. Il vient faire le point un petit peu sur ses surnoms, hein, l'architecte, le je sais plus quoi, le Kingslayer, etc. Mais aujourd'hui, son surnom, c'est l'ancien champion intercontinental, Seth Rollins, former intercontinental champ. Mais ce week-end, il peut modifier tout ça grâce à l'Iron Man match face à Dolph Ziggler, hein, le champion actuel. Il explique que ben, Ziggler est un client sérieux, pardon. Et ça tombe bien parce que Seth Rollins, il aime bien se mesurer au meilleur. Cependant, il y a aussi Drew McIntyre qui rentre dans l'équation, le colosse écossais. Mais là, il a un plan pour s'occuper de McIntyre. Mais de toutes ces belles explications, il est interrompu par justement Dolph Ziggler et Drew McIntyre qui débarquent. Alors, Ziggler. Ironiquement, on remercie Seth des compliments. Hein. Il dit on devrait rappeler plus souvent à quel point je suis talentueux. Donc, il se vante. Hein. Il affirme que quand il était dans le circuit universitaire hein, au niveau de la lutte, il avait un record de 121 victoires. Il explique que ce week-end, si ça se trouve, il marquera un 100-0 contre Seth Rollins. Rollins s'inquiète un peu de la santé mentale de Ziggler. Il se demande si toute le gel qu'il met dans les cheveux lui a pas atteint le cerveau. Dolph affirme que Rollins ne sera pas sauvé cette fois-ci par tout ce qu'il peut faire en crossfit hein, puisque c'est un spécialiste du crossfit Seth Rollins, et il nous rappelle son palmarès encore une fois de victoire en lutte universitaire. Seth explique que toutes ces victoires là en lutte amateur, est-ce que Dolph est là pour l'aider? Hein, et d'ailleurs, il est diplômé de quelle université, Drew McIntyre? Drew McIntyre, il dit, c'est pas l'important, c'est pas d'où je viens, l'important, c'est où je vais. Je vais aller au top. Là, Rollins l'arrête. Il dit non, non, on sait où tu vas aller. Tu vas aller là où Ziggler te dit d'aller. T'es un peu ton toutou. Mais c'est peut-être parce qu'il a un secret sur toi. Peut-être qu'il a une vidéo. On sait que c'est dur d'être la solitude en Écosse. Et voilà, il y a des moutons qui passent, etc. Voilà, il souligne cet amour de Drew pour les moutons écossais. Drew n'est pas content, c'est un légionnaire. Il va tenter d'attaquer Rollins, mais il est stoppé par Ziggler. Ziggler qui dit non, non, mais il se moque de toi, te laisse pas faire, il a que des blagues pour se sauver. Mais là, Drew s'emporte, il dit j'en ai marre. Il lance un défi à Seth Rollins. Ce soir, on s'affronte. On règle nos comptes. Du coup, ben, je crois que ce sera le match de main event, ça, non?
Ouais. Et Seth qui finit par faire la chèvre en disant I'm a bad man. Voilà.
Voilà. Effectivement, ça c'était drôle. Hein. J'avais ri pas mal. Hein.
Et Kurt Angle en coulisses plus tard dira en croisant Drew et. Et Ziggler, il leur dira, les mecs, j'ai un truc à vous dire, le match que Drew fera ce soir, s'il gagne, enfin s'il perd, il sera banni du ringside pour le pay-per-view.
Ouais, pour Extreme Rules, il y a Kevin Owens aussi qui est dans le coin, et qui, parce qu'il est dans le bureau, hein, dans le bureau de Kurt Angle, et puis ben, voilà, il accuse un petit peu Angle de faire du favoritisme, encore une fois en prenant Ziggler et Drew à témoin. Ça a fonctionné pour toi cette séquence-là? Totalement dans l'humour, ou ça t'a saoulé?
Un peu des deux. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai bien aimé la. Comment? J'ai bien aimé l'intensité de Drew McIntyre et Ziggler aussi qui a un certain art pour complimenter en même temps qu'il se fout un peu de la gueule mais enfin bref c'est il a vraiment une façon d'installer ses rivalités qui me rappelle un peu ce que fait aussi le Miz quand il installe une rivalité, c'est-à-dire que il est condescendant et en même temps il reconnaît les qualités de l'adversaire. Donc voilà. Ah, mais quel est le connard qui écrit des blagues comme ça pour Seth Rollins? C'est le même qui lui a sorti les blagues sur Jericho là, sur le pantalon. C'est les mecs. Enfin. Il y en a marre de cette écriture de chiottes. On a l'impression que c'est des mecs qui écrivent des blagues pour, je sais pas, les spectacles du Club Med ou. C'est juste.
Ouais.
C'est pas possible. Votre mec, c'est votre top star, hein, Seth Rollins. Hein. Vous pouvez vous dire ce que vous voulez sur Roman Reigns, tout ça. Seth Rollins, c'est votre top star en ce moment. Donc lui écrivez pas des. C'est un des mecs. C'est un des rares babyface qui fonctionne ces dernières années à la WWE. Enfin, on va dire depuis le départ de Daniel Bryan, quoi. C'était l'un de ceux qui fonctionnait le mieux. Enfin, qui avait réussi à fonctionner le mieux en babyface, Rollins, là. Et il était sur une bonne trajectoire. Et là, on commence déjà à lui filer un humour pipi-caca et... une nouvelle fois transformer un face en kéké qui fait des blagues sous la ceinture quoi. Donc voilà ça m'énerve ce genre de truc mais du côté voilà du côté
ça, Ziggler, ça crève les yeux qu'on a les mecs qui sont calibrés pour le main event là hein.
Ouais.
Entre Drew McIntyre, Rollins même Ziggler hein, maintenant avec le petit retournement qui s'est passé là ils ont le micro, ils ont le talent ils ont la carrure
et c'est mauvais aussi pour McIntyre c'est pas non seulement vous rendez pas Seth Rollins plus badass avec ce genre de blague mais en plus ça ridiculise McIntyre alors que le mec n'a rien de ridicule et vous allez le voir dans le match d'après. Et donc du coup faire des blagues comme ça, j'espère que ça va pas continuer Mais parce que vous foutez de la gueule du monde. Quand on voit le match qu'il y a à la fin de ce Monday Night Raw, bordel, McIntyre, s'il n'y a pas marqué main event partout sur sa gueule, hein, c'est.
Voilà,
Préservez
c'est
l'aura des gens au lieu de faire des blagues de merde sur eux, s'il vous plaît.
ça, c'est juste pas possible. Avançons dans l'humour. The B Team, ils continuent à imiter les Dictators of Worlds, hein. Alors que ce soit dans les coulisses ou sur le ring, mais ils sont interrompu, pardon, par l'intervention justement de Matt Hardy et Bray Wyatt qui se téléportent hein, du Titantron jusque sur le ring, dans le dos de leur. Donc il y a un match qui s'ensuit entre Matt Hardy et Bo Dallas. Matt Hardy essaye de tuer Bo Dallas hein, à plusieurs reprises. Hein. Il fait des prises très violentes là, il essaye de lui faire un side effect sur les escaliers de fer. Je sais plus quelle prise de fou il essaie de faire à un moment donné aussi. Il y a le revival. On les voit qu'ils sont en train de regarder le match à la télé. Alors à la fin du match, Matt Hardy tente de placer une souplesse arrière sur Bo Dallas depuis le tablier du ring juste à l'extérieur. Là-dessus, il y a Curtis Axel qui essaie d'intervenir. Ça distrait Matt Hardy, sachant que Curtis Axel est maîtrisé par Bray Wyatt. Mais ça suffit à distraire Matt Hardy qui se fait coincer dans un neckbreaker depuis la troisième corde là, de Bo Dallas. C'est donc Bo Dallas qui gagne, mais les Deleters of World sont mauvais perdants et ils viennent tabasser la B-Team qui est en pleine célébration, hein, les célébrations dont eux seuls ont le secret. Voilà, ça devient un peu plus sérieux entre Matt Hardy, Bray Wyatt et Bo Dallas et Curtis Axel. Le Revival qui est en embuscade. Qu'est-ce que tu as pensé de ce petit segment? Qui vois-tu gagner ce week-end?
Je vois bien les Deleters of World. Désolé, mais ma connexion est assez instable, donc j'espère qu'on t'entendra bien sur le replay. Donc j'allais dire, je vois bien les Deleters gagner parce que justement on nous a suggéré que Revival était derrière pour aller choper la ceinture et que je vois pas trop Revival B-Team comme affrontement, mais bon. J'avoue que c'est un des matchs où je suis le plus indécis au niveau du booking. Tout est un peu en suspens, je trouve, parce que les deux sont possibles en fait. J'avoue que je sais pas trop vers où ils vont aller. Puis sur ce dernier Raw, on nous a montré que quand même c'était pas une victoire peau de banane quoi. C'était bon, il y avait distraction, mais c'était quand même pas une victoire peau de banane. Dallas d'ailleurs avec son donc du coup c'était quoi? C'est une sorte de neckbreaker sur la corde. C'était visuellement
Ouais,
c'était assez violent.
un peu la même chose que le DDT de Randy Orton.
Voilà, mais ouais,
Voilà, quand l'adversaire a les
transformé.
chevilles sur là. Voilà, mais ouais, plutôt efficace.
Donc voilà, si je dois en choisir un, je dirais les Deleters. Mais qui sait?
Ouais. Ouais,
Donc voilà. Toi, c'est quoi
ouais.
ton avis?
Bah, je vois plutôt les Deleters gagner. Qu'est-ce qu'ils feraient d'eux après? Ils ont construit suffisamment la B-Team pour qu'ils soient à peu près crédibles, pour qu'on puisse penser qu'ils voilà, mettre le doute, hein, penser qu'ils puissent gagner. Mais s'il faut enchaîner sur le Revival, je pense que ce sera plus efficace si c'est avec les Deleters of World. Maintenant, reste que Curtis Axel et Bo Dallas, ça reste deux projets de longue date de la WWE, donc c'est pas impossible non plus qu'on leur mette la ceinture autour de la taille. Mais bon, on va rester.
Pour les récompenser pour leur
Ouais, puis
loyaux services.
C'est ça, puis c'est quand même des mecs qui avaient du potentiel. Hein. Bo Dallas, il était champion NXT. Curtis Axel, c'était un peu le protégé de Triple H au début quand il est arrivé avec ses séries de victoires, quand il était champion intercontinental, qu'il avait été mis sous l'égide de Paul Heyman. Il y a un moment donné, ils y ont vraiment cru, l'un comme l'autre. Mais bon, reste que ça n'a jamais pris et qu'ils sont dans une position un petit peu bizarre. Mais je pense qu'ils ont suffisamment l'intérêt des têtes pensantes de la WWE pour peut-être avoir droit à un règne de champion tag team. Maintenant, le problème, c'est que je vois pas ce qu'ils feraient après de Bray Wyatt et Matt Hardy. Donc, je vois plutôt quand même Matt Hardy et Bray Wyatt conservés et partir en rivalité avec The Revival ou pourquoi pas dans un truc à trois encore avec la B-Team qui resterait dans l'histoire. Voilà, avançons. À moins que tu aies quelque chose à
Non,
ajouter.
non, 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 pas grand-chose sur cette rivalité.
Tyler Breeze se fait rembarrer par le Riot Squad
Eh ouais.
dans les vestiaires. Hein, il leur propose des conseils vestimentaires, mais elles n'en veulent pas. Et après, Liv Morgan se fait battre par Ember Moon. Grosse pop de Ember Moon pour sa victoire, bizarrement.
Et le petit truc ouais, qu'on n'a pas mentionné, c'est Fandango qui est blessé en ce moment, donc du coup c'était pour voilà, c'est pour ça que Tyler Breeze, je pense qu'ils lui ont mis un petit peu de, ils ont voulu être sympas avec lui, ils l'ont mis à la téloche pendant 30 secondes.
C'est sympa, hein. Sympa pour lui. Voilà. Ben Ruby Riott aussi, elle est blessée, hein. Donc le Riott Squad, il est un peu sans leader. Mais j'étais surpris de la pop pour la victoire d'Ember Moon. Mais le public était plutôt,
Ouais.
plutôt gentil, hein. Ils ont plutôt bien embarqué dans toutes les histoires ce soir.
Et
Donc
Ember qui du coup à la fin aussi lui montre deux victoires de suite sur Liv Morgan.
Ouais, sûrement une troisième la semaine prochaine.
Peut-être, ouais, peut-être. C'est pas trop où ça va tout ça. Hein, mais bon, comme tu. J'y croyais pas trop, mais comme tu l'avais dit, je sais plus, au dernier match de Ember Moon, bah il a book forte hein, pour l'instant, donc c'est bien. Où est-ce qu'elle va atterrir? Là, c'est la question.
Bon, peut-être qu'ils prennent leur temps aussi, hein, comme avec Mojo.
Mais
Dans un an ou deux, c'est un peu plus consistant.
Donc ouais, non, bonne nouvelle. Bon, c'est rien de
Rien de transcendant, hein, rien à
transcendant
signaler
non plus,
là-dessus.
ouais, mais voilà.
Smiley Baylor et Bobby Roode sont interviewés dans les vestiaires par René Young. Ils sont motivés, ils vont le prouver qu'ils sont les plus costauds dans le ring ce soir.
Ouais.
Rien de plus. Hein. Finn Baylor et Bobby Roode, donc ce soir, affrontent le gendarme Corbin et Elias. Donc, bah, y a d'abord une petite chanson d'Elias. Hein, qui nous annonce aussi la sortie de son album hein, pour dans pas longtemps. Il fait une petite référence à Tom Brady hein, qui lui disait qu'il faut faire semblant à Boston d'aimer le public. Voilà, hein, donc c'est une chanson chip-hop hein, pour se foutre de la gueule de Finn Bálor et Bobby Roode et puis se foutre de la gueule un peu du public. Il est rejoint par le gendarme Corbin qui pousse aussi la chansonnette. Elle a aussi une petite chanson à chanter. Et puis, il y a les gentils qui débarquent. C'est parti pour la baston. Donc, un match tag team hein, plutôt équilibré, d'un côté comme de l'autre. Hein, on fait de jolis petits exploits. Mais c'est la victoire des méchants via End of Days sur Bobby Roode. Bon, il y a aussi une petite distraction hein, à un moment donné. Voilà, ça permet la victoire de Baron Corbin, plutôt un joli match et on apprendra un peu plus tard que le match est bouclé entre Baylor et Corbin pour Extreme Rules. C'est un peu les boulets hein, ces quatre-là. On les met ensemble, on arrive à en tirer un match quand même pas mal, mais derrière, bah, y a rien de spécial hein, qui se décide
ouais,
malheureusement.
y a pas d'intensité comme je le disais tout à l'heure. Y a pas d'intensité. Bobby qui dans le segment juste avant a comme seul propos regarde-nous, on est beau gosse, on a des abdos. Merci Bobby. Ensuite, Balor, ce qui est dingue, c'est qu'ils ont montré la feud sur Twitter Balor
Qui était plus
et
intéressant,
voilà,
quoi.
qui était plus intéressante. Et ensuite, on a le segment. Et le segment revient à ce qui n'est pas intéressant, c'est-à-dire, oui, Baron, il dit que je suis petit, mais la taille, ça compte pas, et moi, je suis deux fois plus fort que lui. Et voilà, on est dans... Oh là là, on est à l'école, quoi, au niveau dialogue. Donc voilà, bon, c'est... C'est dingue comme ils peuvent pas comprendre. Ils arrêtent pas de parler des réseaux sociaux. Ah, on vous écoute sur les réseaux sociaux, on vous écoute, etc. Quand vous voyez le nombre de likes et de retweets qu'ont des feux de, sur Twitter et que vous revenez à votre segment tout pourri, enfin à votre idée de segment tout pourri, au lieu de vous inspirer de ce qui se passe sur Twitter, bref, c'est juste dommage. Donc voilà, on n'attend pas vraiment grand chose de ce Balor Corbin. Y a pas d'enjeu particulier. Personne n'est à la recherche d'une ceinture. Personne n'a vraiment de grandes raisons de détruire l'autre, à part le fait qu'il y en a un qui se fout de la gueule de l'autre. Puis c'est tout, quoi. Enfin, je vais pas répéter ce que j'ai dit la semaine dernière, mais on est dans le statu quo. Et puis c'est tout. Puis on aurait pu formuler cette rivalité beaucoup mieux avec la même idée qu'ils avaient pour Corbin à NXT, qui était le mec anti-indé, anti-catcheur arrivé à la WWE mais ayant fait le tour du monde, etc. Et expliquant que bah, moi j'ai pas eu besoin de trimmer pendant des années pour en arriver là. Cet angle-là est vachement plus intéressant et rendrait la rivalité beaucoup plus sympathique que cette cour de récré où la grande brute dit bah toi t'es petit donc t'es moins bon moi je suis grand, je suis meilleur. On a le copier-coller de Big Cass Daniel Bryan.
Ouais, à peu de choses près. Alors qu'effectivement, dans les tweets qu'ils ont envoyés, il y a eu ce petit clash là où Baylor explique que pendant que Baron Corbin se faisait virer des ligues de football, lui il gagnait déjà des tournois au Japon, ce qui est plutôt bien vu, hein, si on va teaser un petit peu la haine du grand Corbin. Voilà, on mélange tout ça, du Elias, du Bobby Roode, tout ça, et personne n'a vraiment de personnalité ou de trucs intéressants à faire, donc on mélange les quatre ensemble.
On pourrait croire qu'ils veulent pas faire de référence à la réalité, à des choses qui se sont vraiment passées, mais ils le font avec Bobby Lashley. Du coup, Roman Reigns, lui, va chercher des trucs, enfin, l'historique de Bobby Lashley, le vrai Bobby Lashley. Donc voilà, ils utilisent ça, mais au mauvais endroit, de la mauvaise façon. Alors que là, la rivalité en aurait eu largement besoin parce que voilà, on voit pas vraiment. Autant je reconnais à Reigns Lashley le fait que ils ont installé une vraie raison quand même pour cette rivalité, c'est-à-dire que les deux mecs ont des prétentions de top star, ont un physique de top star et un ego. Enfin, alors surtout Roman Reigns, mais quand même Lashley, la façon dont il parle à Reigns et dont il prétend pouvoir détruire Lesnar, il a quand même un ego assez important. Donc on a quand même une raison, je reconnais ça au moins à Reigns Lashley, c'est qu'il y a quand même quelque chose à cette rivalité. Alors que là, Balor Corbin, c'est...
Ouais, c'est léger, hein. C'est voilà, il faut bosser un peu plus ces rivalités. Alors que mes voisins sont en train de hurler, je ne sais pas ce qui se passe. voilà, Kevin Owens dans le bureau de Kurt Angle, il est en train de manger. Il propose la dernière bouchée, hein, à Kurt Angle. Tu veux goûter? C'est pas mauvais ces sandwichs là. mais là-dessus, il se lève, il a peur puisque Strowman vient de débarquer dans le bureau. Il est calmé tout de suite par Kurt Angle. Il dit t'inquiète pas, Braun, ce week-end, ce dimanche. Vous allez vous affronter, ce sera dans une cage. Et voilà comment on book un match entre Kevin Owens et Braun Strowman dans une cage à Extreme Rules.
Ouais.
Curieux de voir ce match quand même, hein. Deux gros talents. Mais là aussi, service minimum. Hein, enfin, il y a eu ce passage avec les toilettes qui était quand même qui demandait un petit peu d'installation, hein, de préparation. Mais pour cette semaine, c'est un peu léger. Et le truc de la cage, ça débarque un peu comme un cheveu sur la soupe. Hein.
Ouais. Attendez, Guillaume qui demande est-ce que tes voisins sont anglais ou croates vis-à-vis du match
C'est
de
des
foot.
Français, des bons Français.
Des bons Français.
Bons Français de souche, là. Bien là, du terroir, là, comme ça. Hein? Marion, cousin. Alors.
Putain. Attends, on était sur quoi déjà? Ça m'a perdu. Oui, Brown, Kevin Owens. Écoute, j'ai. Alors là, pour le coup, c'est prévisible à mort. Hein, donc, du coup, c'est Brown qui gagne. Et tout ce qu'on verra, c'est un très bon match de Kevin Owens. Mais c'est juste une nouvelle fois un truc pour s'occuper. Et ce pay-per-view est marqué totalement par ça. Hein. C'est pas pour rien quand même que j'ai sorti la blague Extreme Lose. C'est que la majorité des matchs de ce pay-per-view ont aucun enjeu. Mais vraiment, vraiment aucun. Y a pas de. Tout le monde est en train un peu de s'occuper en attendant que les scénaristes aient une idée, en attendant que la ceinture principale revienne, en attendant que la scène tag team soit revitalisée, possiblement par Revival, j'espère, et Authors of Pain. Donc voilà, le jour où on aura Revival contre Authors of Pain en pay-per-view, rappelez-moi, parce que ça sera bien, mais pour l'instant,
Ça peut arriver.
ouais. Donc voilà, ouais, ça va faire un bon match, mais ça va faire un match qui me motive pas plus que c'est comme un main event de Raw en fait, ce match. C'est-à-dire que je suis sûr que je passerai un bon moment, mais ça sera pas un moment qui devrait être dans un pay-per-view. Enfin, je vois pas, je comprends pas pourquoi ce match est dans un pay-per-view en fait. À part le fait qu'on est avec Braun Strowman et Kevin Owens, mais l'histoire n'a aucune.
Bah, le problème, c'est qu'on sait toujours pas qu'est-ce qu'a fait Kevin Owens pour mériter les foot comme ça de
Oui,
Braun
voilà,
Strowman.
bah, ça c'est gratuit,
Donc
ouais.
c'est un peu
Si
bizarre.
vous voulez le détail là-dessus, parce que on en a parlé la semaine dernière un peu plus en longueur, j'ai essayé de récapituler ce qu'avait fait Kevin Owens et vous verrez que rien quoi,
N'y a
quasiment.
pas grand-chose. Ouais. Donc
Donc,
victoire de Strowman et entre Baylor et Corbin, tu mets la victoire sur qui?
alors.
Alors, pareil. Je vois bien Baylor gagner.
Je suis en train de faire gagner que des faces là, non?
C'est ça, bon, on aura peut-être une soirée top babyface. Non, bah, on ne s'est pas prononcé sur Rollins Ziggler. Moi, je vais donner à Ziggler. Hein.
Ouais. J'avoue que je dirais bien Ziggler. Juste parce que je les vois pas avoir installé comme ça cette rivalité pour que direct ça se termine avec Rollins qui récupère la ceinture. Il n'y aurait pas vraiment de raison que ça continue si Rollins récupère la ceinture. Et pourquoi pas ouvrir la porte à d'autres personnes dans cette rivalité pour que du coup.
On peut peut-être avoir un retour de Dean Ambrose. Tôt ou
Ouais.
tard, ça peut finir par arriver. On arrive au bout. On arrive au main event. Et ben justement, le main event, c'est Seth Rollins contre Drew McIntyre. Excellent main event avec un Drew McIntyre qui enchaîne les démonstrations de force sur Rollins, qui fait tout quand même pour gagner, qui réussit à prendre l'avantage, mais qui se fait distraire évidemment par Dolph Ziggler, hein, Dolph Ziggler qui va se manger un curbstomp quand même. Mais Drew va en profiter pour placer son claymore kick sur Rollins, qui sera séché pour le compte. 1, 2, 3, victoire du coup de Drew McIntyre, qui aura droit d'être là aux abords du ring à Extreme Rules. Joli match. Donc, comme on le disait tout à l'heure, effectivement, on a des mecs du calibre de Main Event là. Hein.
Ouais. Et puis McIntyre a fait tellement de démonstrations de force dans ce match Et de preuve d'intelligence aussi, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. C'est que y a plein de spots un peu, j'allais dire, clichés de Seth Rollins, dans lequel, enfin des pièges dans lequel est pas du tout tombé McIntyre. Un moment où il est resté pendu comme ça, il était, je sais plus, c'est McIntyre qui était monté au poteau d'abord, et donc du coup il s'était pris un coup et il pendait par les pieds. Et là, Seth Rollins arrive par-dessus pour peut-être, je sais pas, lui faire un stomp ou quelque chose. Et là, à ce moment-là, en fait, McIntyre se relève rien qu'avec ses pieds pour foutre une mandale à Rollins en haut du poteau. Ouais, non, c'est hallucinant. La force qu'il a, l'agilité, et puis la science, du coup, ce qu'on nous raconte, c'est vraiment qu'il a la science du ring, quoi, que...
Ouais, il est très technique, très puissant. Il y a
Rollins.
cette power bomb aussi là qu'il fait en attrapant Rollins qui est au sol. Il le ramasse du sol pour le porter sur ses épaules et l'écraser en sit-up power bomb. Là, c'était assez impressionnant. White Noise aussi tenté du haut du coin du ring qui est contré par Rollins cette fois-ci, mais
Je me
en
souviens
magnifique buckle power bomb là.
d'une suicide dive aussi de Rollins qu'il a rattrapé comme ça dans ses bras et qu'il a plaqué sur le coin du ring violemment. C'est le genre
Ouais,
de
des
spot
gros
qu'on
gros
voit,
spots, hein.
c'est le genre de spot qu'on voit quasiment jamais
C'est ça.
parce que faut avoir une sacrée force. Et puis c'est un spot de heel, donc c'est sûr que Braun Strowman va pas le faire, quoi. Mais vraiment, non, mais Drew McIntyre est
Voilà, c'est pas
fantastique.
Cesaro, mais c'est pas loin quand même.
Ouais. Donc,
Niveau technique, niveau puissance, hein.
ouais, donc j'espère vraiment que ce genre de match va montrer aux officiels que McIntyre, il doit être en haut de la carte, hein. Vous devez tenter votre chance avec McIntyre. Alors je sais pas comment ils vont faire suivre cette histoire, hein, parce que Rollins, qui malgré les blagues de merde, le fait que Rollins parle du fait, enfin de McIntyre comme un sous-fifre, etc. J'espère que c'est peut-être une petite graine et que ça va commencer à germer, etc. Et que on va arriver à un McIntyre qui se sépare de plus en plus, peut-être de Ziggler, qu'il se passe quelque chose, je sais pas, entre les deux. L'histoire que ça le libère, quoi, qu'il soit plus dans ce rôle. Mais en tout cas, c'est vraiment un match excellent que je vous conseille. Si vous n'avez pas la motivation de regarder Raw ces derniers temps, au moins regardez Rollins Ziggler de la semaine dernière, regardez Rollins McIntyre de cette semaine. C'est deux super matchs. Donc voilà, ça
Alors, on a quand
c'est
même
des matchs de
du bon
pay-per-view,
catch, hein,
quoi,
on va
c'est ça
pas.
le truc. C'est ça les matchs, c'est ça les matchs de pay-per-view, comment? C'est les matchs qui ont de l'intensité, qui ont une raison d'exister, etc. Et
Bah,
je
c'est quand même
trouve.
d'un autre niveau que quand t'as Jinder ou Elias dans le ring, hein, malgré toute la
Ouais.
qualité qu'ils peuvent avoir ces deux-là. On est quand même nettement au-dessus avec un Drew McIntyre, quoi.
Donc voilà, et une nouvelle fois, un Raw qui est pas forcément terrible et qui finit avec un super main event, c'est un peu le schéma de c'est un peu le
Ouais.
schéma des derniers temps.
Eh oui, il faut combler, hein, 2h30 de show. Bon,
Ouais.
on arrive au mot de la fin, hein, justement, puisqu'on vient de finir avec le main event. Il nous faut un top, il nous faut un flop, il nous faut une note. On t'écoute.
Je vais mettre mon top à McIntyre. Pour tout ce qu'il a fait dans la
Eh
semaine
oui.
des Nitro, parce que au micro il est excellent, dans le ring il est incroyable. S'il y a un mec qui a progressé, je pense, dans l'opinion publique des fans qui connaissaient pas, enfin, ou peut-être qu'ils connaissaient, mais d'avant, qu'ont pas connu le nouveau McIntyre, je pense que cette semaine c'est vraiment une semaine où il a prouvé des choses, et voilà, je suis très content qu'on le laisse prouver ces choses-là. J'espère que c'est pas juste du remplissage et que ils se rendent compte de l'or qu'ils ont dans les mains.
Voilà.
Mon flop, c'est Bayley Sacha. Voilà, c'est Bayley. Enfin, c'était, je crois, ton flop la semaine dernière. Mais là, on est dans rien du tout. Là, vous avez aucune idée, ou alors vous avez annulé vos idées, etc. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a personne. Mais est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion?
Non, on sent effectivement qu'ils sont en train d'abandonner le truc, hein, je pense.
Ils savent plus ce qu'ils font. Ils savent vraiment plus ce qu'ils font. Et on va voir, dans 2 semaines, elles vont retourner ensemble. Voilà, tout s'est bien passé, on ne vous a rien montré, et puis finalement, voilà, elles se sont réconciliées. C'est catastrophique. Vous ne savez pas quoi faire de vos quasi deux meilleures stars féminines.
C'est tristesse.
Incroyable. Ma note, néanmoins, j'ai trouvé que avec le segment de début, Lashley, Roman Reigns, que j'ai vraiment bien aimé, le main event, que j'ai vraiment bien aimé, et Mojo, le massacre de
Noé Rosé.
Le massacre de Noé Rosé que aussi j'ai bien aimé. J'ai trouvé quand même que c'était potable, même si rien n'a avancé. J'ai failli mettre 3, mais je mettrais 2,5 parce que vraiment on a rien n'a avancé, mais c'était pas si désagréable que ça au global.
Moi, je vais monter à 3 quand même pour la note parce qu'il n'y avait rien de vraiment consternant, rien de vraiment transcendant non plus. C'est plutôt bien placé qu'ils nous font qui transforme Lashley Reigns en un truc un peu plus simple, un peu plus basique. Je vais mettre mon top à Drew McIntyre aussi, je suis obligé de donner à lui. Je vois pas qui d'autre cette semaine a fait le coup de poing comme il l'a fait lui, c'est le plus mis en valeur. J'ai donné déjà mon top à Mojo la semaine dernière, je vais pas lui redonner cette semaine, mais en tout cas voilà, il fait du bon boulot aussi Mojo. Mais c'est Drew qui était vraiment épatant cette semaine. Et le flop, si tu m'as pris Bailey Sacha, ouais. Je vais le donner aux blagues sur les chèvres de Rollins, ouais. Qui sont quand même quand même se les farcir. On a fait le tour de la question. On va passer à l'auto-promo. Hein. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur YouTube, sur PodCloud, sur iTunes. On est sur Twitter, machin, et Facebook.
.com/ketchupcdc. On va le faire
Instagram,
en duo. .com/ketchupcdc. On va le faire en duo à chaque fois.
Voilà. Je te laisserai cette partie.
Okay.
.com/ketchupcdc.
Voilà, à peu près tous les sites. N'importe quel site, mettez .com/ketchupcdc et puis ça arrivera sur une page avec nous, à mon avis.
Sinon, il y a une description en dessous, vous regardez la description. Ouais, voilà. Vous abonnez, vous prenez la petite cloche, vous mettez un commentaire, vous mettez un petit pouce vers le haut. Ouais. On n'a pas eu de pouce vers le bas, c'est bizarre. Peut-être parce qu'il y a le match.
Ça ne va pas prendre longtemps. Non, mais je dis quoi. Qu'est-ce que.
Bah voilà. Supplément arrive.
Oui.
Il y a le supplément SmackDown qui va arriver dans pas longtemps. On a NXT seul aussi. On fera peut-être un pré-show pour Extreme Rules. Bah, abonnez-vous sur les réseaux sociaux. On vous tiendra informé. Peut-être aussi vous faire un petit récap de ce qui se passe au Japon. Entre le Dominion que j'ai pas résumé, qu'on n'a pas pu faire l'émission avec l'amiral et ce G1 spécial qui arrive, on va essayer de. Enfin, je vais essayer de vous débrouiller une petite analyse de tout ça. T'as des annonces en plus, mon bon ?
J'en parlais dans le pré-show. Je vais juste dire que je vais essayer de faire dans les semaines qui viennent un top 10 sur la Stardom, des raisons de regarder la Stardom. Mais. Et puis voilà, on a peut-être du contenu relié à un jeu vidéo, mais
il faut du temps et
il faut du temps.
Voilà, soyez patient, voilà. Ça va débarquer.
Envoyez du temps à Ringside.
Envoyez-moi du temps.
Envoyez-moi du temps libre. Vas-y.
S'il vous plaît. Onk, merci beaucoup pour la réalisation, merci beaucoup d'être venu, merci pour ton analyse, merci à toutes les personnes qui étaient dans le chat, hein, Galuf, Didi, merci de nous écouter, merci à ceux qui nous écoutent en replay, on se retrouve la semaine prochaine, et d'ailleurs je vous souhaite une bonne semaine,
ouais.
Ciao ciao.
Salut.